France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faites l'amour, pas la guerre. Chacun connaît le slogan de la contre-culture américaine et nombreux sont ceux qui en revendiquent la paternité. Disons qu'il est apparu dans les années 60, durant la guerre du Vietnam. Mais qui va visiter la grande exposition rétrospective que le Louvre consacre à David en découvrira peut-être une passionnante préfiguration avec cette grande toile intitulée « Mars, désarmé par Vénus ». Peinte par David en 1824 en son exil bruxellois, elle représente le héros qui, couvert de fleurs et rosissant de plaisir, dépose les armes. Cupidon délace sa sandale, les grâces le dépouillent de sa panoplie martiale. Quant à Vénus, également dénudée et de dos, et quel dos, eh bien, allez y voir. Est-ce cela le dernier mot de la gloire ? Dans Libération, Philippe Lançon, qui trouve toujours les mots justes pour parler de peinture, écrit ceci. « Bouquet final mythologique, où l'on peut voir autant de kitsch que d'insolence, de mauvais goût que de liberté, de rêve que de sarcasme, comme si la guerre, éteinte par l'amour, n'était qu'un spectacle, une idée, un rêve ou une farce. » Qu'y a-t-il après la gloire ? Peut-on cesser d'être héroïque ? Et comment finir en beauté ? C'est le dernier tableau que je veux faire, écrivait David, mais je veux m'y surpasser. J'y mettrai la date de mes 75 ans et je ne veux plus ensuite toucher un pinceau. Rejoignons, en compagnie de Sébastien Allard et François-René Martin, celui qui, crânement, avait décidé de faire de son exil un reproche contre son temps.
Ne me parlez jamais de demande de ma part pour rentrer en France. Je ne dois en faire aucune. Ce que je devais faire pour ma patrie, je l'ai fait. J'ai rempli ma tâche. C'est au gouvernement de remplir la sienne.
Écrivait de Bruxelles Jacques-Louis David au peintre Jean-Antoine Gros à Paris. À Bruxelles, David était en exil depuis 1816. Proscrit comme régicide par Louis XVIII, et peu après cette lettre, il mourut dans sa maison de la rue Léopold, derrière le théâtre de la Monnaie.
Jacques-Louis David, mort à Bruxelles le 29 décembre 1825.
C'était dans l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture en 2001. Sébastien Allard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général du patrimoine, directeur du département des peintures au musée du Louvre, en historien de l'art. Vous avez travaillé sur Gros, sur Ingres, Corot, Delacroix et les peintres de la génération romantique, celle de Paris 1820, pour reprendre le titre de votre premier livre paru en 2005. Aujourd'hui, nous serons bien dans les années 20 du 19e siècle, mais à Bruxelles, avec David, auquel vous consacrez la grande, magnifique exposition rétrospective que l'on peut voir au musée du Louvre jusqu'au 26 janvier. Nous vous avions déjà reçu dans cette émission l'année dernière pour parler du Marat assassiné de David peint en 1793. Nous revoici, nous, un an plus tard, lui, 30 ans. Après, et d'une certaine manière, c'est depuis ces dernières années, depuis cette vieillesse, que vous avez voulu revoir tout David.
Oui, l'idée de l'exposition est partie de ces dernières années, de cette période qui a longtemps été très peu aimée. Oui. Parce qu'on a ces tableaux comme celui-ci qui sont un peu étranges, comme le disait Philippe Lançon, entre très libres et en même temps qui frôlent avec le kitsch, et ça permettait de tirer les fils de la vie de cet artiste qui est très longue, qui connaît six régimes politiques, qui est au sommet de la gloire et qui tombe à plusieurs reprises, et donc de retrouver une forme de continuité dans la discontinuité.
Et c'est une vraie découverte, on va le voir dans cette exposition. Bonjour François-René Martin.
Bonjour.
Le Louvre, vous connaissez bien également, puisque vous êtes coordinateur du Centre de Recherche de l'École du Louvre et professeur d'histoire générale, d'histoire de l'art général à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Votre histoire de l'art est générale, parce qu'elle est frottée aussi de sciences politiques, et notamment dans votre livre « Cranach, le pouvoir des images », paru en 2011, et vous avez contribué au livre dirigé par Nadège Lannery-Dagen et Caroline Archard, « L'art au risque de l'âge », paru en 2021 aux éditions du CNRS. Vous y traitez notamment, chez Ingres, mais pas seulement, on va le voir, du style tardif. Là encore, le dernier tableau, c'est toute une histoire dans l'histoire de l'art.
Absolument, et on y reviendra évidemment dans le cas de David, c'est une question absolument passionnante, c'est le cas aussi pour un autre artiste qui a eu une très longue carrière, une existence très longue, Ingres, et plus généralement c'est une invention qui est à la fois complexe et très passionnante, cette notion de style tardif d'un artiste, où on projette ce que l'on fait pour les périodes, et on essaie d'imaginer comment des périodes très longues de l'histoire de l'art peuvent en quelque sorte être projetées sur la vie d'un individu et son œuvre.
Alors, ce tableau dont on va parler, Mars désarmé par Vénus et les Trois Grâces, il est vraiment en majesté dans votre exposition, Sébastien Allard, et on va voir d'ailleurs qu'il est dans une disposition, David l'avait voulu aussi, dans une installation. Commençons par décrire peut-être, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, c'est une très grande toile, très coloré, d'un coloris très vif, des bleus intenses, des rouges, des orangés. Et puis, il y a un temple à l'antique qui flotte dans le ciel, étrangement, qui flotte étrangement dans le ciel. Et devant ce temple, un lit de style empire ou restauration, sur lequel est assis Mars, barbu, et allongé devant lui Vénus, qui est en train de le couronner, tandis qu'un poteau au pied de ce lit est en train de défaire les sandales du dieu.
C'est Cupidon, qu'à l'arrière-plan. C'est probablement Cupidon.
C'est l'amour ailé. Et derrière, trois grâces dans des poses assez contournées et des visages assez désagréables de réalisme qui contrastent avec le reste de la scène, qui est plutôt pur, qui sont en train de faire des libations et de retirer à Mars ses armes, le bouclier et
le casque
et l'épée. Exactement.
François-René Martin, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Alors, on voit plein de choses, mais on va commencer tranquillement.
Il y a plein de choses, notamment une chose qui est vraiment importante, c'est le style de l'œuvre avec quelque chose qui s'apparente à un fini presque radical, à la fois pour la représentation de Mars, Vénus, mais aussi des Trois Grâces, ainsi que le temple, sachant que... tout au long de sa carrière, David, c'est quelqu'un qui sait aussi pratiquer des œuvres où il joue sur le non-fini. Il y a un grand débat qui s'était installé après 1800 sur le fini, le non-fini, ce qui est pas du tout la même chose que l'inachevé. Le non-fini, le non-fini, c'est en termes de finition. Là, c'est une des œuvres, évidemment, extraordinairement finie, alors même que quand on regarde la période bruxelloise et des tableaux qui sont juste à côté, il peut être tout à fait dans un style qui n'est pas aussi précisionniste que celui-ci. Et quand je dis un style précisionniste, c'est en même temps une œuvre qui est tellement extravagante parce qu'elle est représentée qu'elle a quelque chose en même temps d'irréel.
D'irréel, de surréaliste même, on a dit, Sébastien Allard. Alors, vous l'avez dit, la couleur. Alors ça, c'est ce qui éclate quand on est au Louvre et qu'on voit, par contraste, ces dernières salles avec, disons, les années bruxelloises. La couleur et cet étrange rapport entre le fini, l'idéal et le réalisme, parce que vous disiez des grâces qu'elles avaient, un visage très réaliste. On les reconnaît d'ailleurs. Ce sont, on peut donner des noms aux modèles. Ce sont des danseuses, des comédiennes, un peintre même pour Cupidon.
Oui, alors sur la question effectivement de ce fini et non fini, David, à la fin de sa vie, s'en prend à ces peintres qui peignent très fini parce qu'il estime que c'est du beau métier et donc ça renvoie finalement la peinture à aux produits de l'industrie plutôt que...
Ce qu'il appelle la chaussée d'antin.
Ce qu'il appelle pour la peinture pour les amateurs de la chaussée d'antin, une bourgeoisie enrichie qui aime le beau métier, alors que pour lui, le cœur de la peinture est un moyen d'agir sur la société. C'est ainsi qu'il l'a mis en œuvre tout au long de sa carrière et particulièrement sous la Révolution. Donc on a ici exactement le contraire.
Oui.
Et puis il y a chez David toujours cette tension entre... l'idéal qui représente le projet, ce qu'on a pu qualifier à certains moments de néoclassicisme, et puis le réalisme. Et un point d'équilibre est trouvé avec Marat en 1793, et ici, il ne cherche pas du tout le réalisme, mais au contraire, il les confronte, ce qui donne cette peinture à la fois déroutante dans son côté un peu éclectique, et fascinante dans la force de son coloris et par sa monumentalité.
Alors justement, c'est peut-être le moment de faire un flashback. 1793, dites-vous, c'est l'année du Marat assassiné. C'est l'année aussi où David, peintre engagé, peintre révolutionnaire, engagé dans l'action politique, monte à la tribune le 8 août 1793 pour lire un grand discours sur les académies. Écoutez.
Si quelqu'un parmi vous, citoyens, ne se trouvait pas encore convaincu de la nécessité absolue de détruire en masse toutes les académies, dernier refuge de toutes les aristocraties, que celui-là veuille un moment prêter une oreille attentive. Je m'engage, en peu de mots, à dissiper ses doutes, à décider de son jugement, en intéressant sa sensibilité. Prouvons d'abord le tort réel que les académies font à l'art même, combien elles sont loin de remplir le but qu'elles se sont proposées. Démasquons l'esprit de corps qui les dirige, la basse jalousie des membres qui les composent, les moyens cruels qu'ils emploient pour étouffer les talents naissants et les vengeances monacales qu'ils mettent à toute heure en usage. Si par malheur le jeune homme qu'ils poursuivent a reçu de la nature un talent qui le met hors d'atteinte de leur tyrannique domination. Talent perdu pour la postérité, grands hommes méconnus, je vais apaiser vos mânes. Vous serez vengés. Votre malheur, illustre victime, est d'avoir vécu sous des rois, des ministres, des académies. J'ai dit que je prouverai le tort que les académies font à l'art qu'elles professent, je tiendrai parole. La politique des rois est de maintenir l'équilibre des couronnes, la politique des académies est de maintenir aussi l'équilibre des talents. Malheur à l'artiste téméraire qui dépasse le cercle de Popillius, il devient étranger pour les académiciens. C'est un profane qui souille par sa présence le bois sacré des druides, et s'il n'y trouve pas une mort soudaine, il l'en chasse à force de dégoût. Au nom de l'humanité, au nom de la justice pour l'amour de l'art et surtout pour votre amour pour la jeunesse, détruisons, anéantissons les trop funestes académies qui ne peuvent plus subsister sous un régime libre. Académicien, j'ai fait mon devoir. Prononcez. David, discours à la Convention nationale, 8 août 1793.
Lu par Frédéric Lebray sur France Culture en 2001. Voici qui était David, voici qui il est toujours, en somme, en son exil bruxellois dans les années 1820, mais le monde a changé. Et justement, cette conception d'une peinture qui bouleverse le monde, qui le transforme, eh bien, David ne la reconnaît plus dans la peinture de son temps, et c'est contre cette peinture qu'il peint.
Oui, on voit bien d'ailleurs dans le discours à la Convention en 1793 que ce qu'il revendique, c'est la liberté. C'est une forme de liberté de l'artiste, c'est l'originalité. Et il est là, après 1815, avec ce tableau. Et ce qui est très intéressant dans le cas précis de ce tableau, c'est qu'il décide que c'est son dernier tableau.
Voilà.
Puisqu'il fait publier dans la presse un texte où il dit « C'est mon dernier tableau que vous avez cité, j'y mettrai la date de mes 75 ans ». Donc en fait, avec ce tableau, il revendique d'être maître, le maître de son destin à un moment où se sont effondrés une partie de ses espoirs politiques et artistiques. Et en ce sens, il est bien l'une des grandes figures de ce que Staromski appelait l'invention de la liberté.
Oui.
Et donc, la dimension critique de ce tableau m'apparaît comme évidente, puisqu'il décide que c'est le dernier.
Et comme l'écrira Baudelaire, il sera toujours héroïque, même si le temps ne l'est plus, même si, évidemment, il regrette la gloire napoléonienne, il est toujours héroïque, ne serait-ce que, d'ailleurs, dans la peinture même de cette toile qui fait 3 mètres sur 2, donc j'ai dit peinte en 1824, enfin disons jusqu'en 1824, il met plusieurs années, c'est aussi... athlétique.
Il a entre 75 et 77 ans, donc c'est une œuvre difficile à réaliser.
Une œuvre difficile, François-René Martin, et une œuvre qui qu'il est difficile de regarder aujourd'hui, au fond, avec notre goût moderne. Est-elle glorieuse? Est-elle grotesque? Est-elle kitsch?
Oui, alors évidemment, on peut la voir. Je suis allé voir l'exposition avec beaucoup d'amis et moi aussi des étudiants. J'aime beaucoup aussi les rapprochements que peuvent faire des étudiants. On se retrouvait à se dire, tiens, c'est une peinture qui pourrait ressembler à quelque chose qui serait comme à Las Vegas.
Oui.
Tellement elle tire vers quelque chose, effectivement, on a parlé de kitsch.
Ambiance Mar-a-Lago, quoi.
C'est très, très anachronique. Et en même temps, l'exposition, et c'est évidemment très, très passionnant, à part le jeu des rapprochements, permet davantage, évidemment, de la rapporter dans son siècle. Fut-elle extraordinairement décalée dans son siècle, atypique, ironique, volontairement marginale. Mais effectivement, ce style a quelque chose de très, très, très frappant et difficile pour notre œil.
Et aussi, ce que vous avez fait comme choix de muséographie, Sébastien Allard, c'est de la confronter avec, justement, ce que cette œuvre regarde, et notamment, on va y revenir, des Ingres, enfin les autres, la peinture de son temps.
Oui, et le vieux maître qui veut rester le maître à Bruxelles comprend évidemment que dans un monde privé d'héroïsme après 1815, la peinture suit cette pente des amateurs de la Chaussée d'Antin, comme il disait, où le beau devient une forme de finalité à l'art du peintre. Or, lui n'était pas du tout dans cette pente-là, et dans cette idée du beau comme finalité de la peinture, on voit que l'héroïsme commence à le céder à l'érotisme.
Oui.
Le titre lui-même, le sujet lui-même, Mars désarmé par Vénus, résume ce moment du début du 19e siècle.
Et oui, on est désarmé. On est littéralement désarmé.
Et on glisse vers quelque chose qui sera vers quelque chose de l'ordre de l'art pour l'art.
Et c'est d'autant plus vrai qu'on parle de votre exposition. Mais David lui-même avait fait de l'exposition de ce grand tableau une installation. C'est-à-dire qu'il l'avait organisé pour une exposition à Bruxelles, payante d'ailleurs, comme un salon. Mais attention, un salon bourgeois, avec des canapés, et que c'est aussi extraordinaire de penser que finalement, par les conditions mêmes de visibilité de son œuvre, il oriente notre regard.
Oui, il avait mis en place tout un dispositif. Il avait fait louer un appartement à Paris pendant le salon. Et il y avait une première salle où étaient exposées ses œuvres de jeunesse. Puis une deuxième salle où ce tableau était au milieu de tentures face à un miroir, et une troisième salle où il y avait des canapés, des fauteuils pour se reposer. Donc d'une certaine manière, il mettait en scène son propre tableau dans un salon bourgeois qui était la pente de la peinture qu'il critiquait. C'est-à-dire qu'une peinture qui n'était plus au service de la société, qui n'était plus destinée à changer le monde comme c'était le cas dans les années 1780 ou 1790.
Des canapés pour se reposer, et puis peut-être aussi pour se raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu. Écoutez ce qu'en dit Mathieu Pot-Bonneville. Il y a certains sociétaires qui, lorsqu'ils ne sont pas là, nous envoient des cartes postales. Eh bien, lui, le directeur du département culture et création du centre Beaubourg, eh bien, toutes les semaines, il nous envoie une carte postale.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, qu'est-ce que vous regardez?
Notez combien il est difficile de poser cette question « qu'est-ce que vous regardez ?» sans adopter immédiatement un petit ton inquisiteur, suspectant quelque indiscrétion fautive dans la manière dont vous fixez ouvertement tel ou tel point. C'est que, en français, une distinction élémentaire paraît opposer l'acte de « regarder » au fait de « voir ». Le second relève de la réceptivité, il découle de notre exposition à la trace sensible des formes extérieures, quand le premier mobilise l'intention dans sa dimension à la fois attentionnelle et sélective. Il y a ce que je choisis de scruter et ce dont je détourne volontairement les yeux. À ce titre, le regard enveloppe une décision qui le rend susceptible de tomber sous les catégories de la responsabilité, voire de la culpabilité. Ce dont témoignent dans la langue les mille manières de désigner comme honteuses ou blâmables certaines façons de voir. Maté, guigné, lorgné, zioté, biglé, reluqué. La distinction saute aux yeux donc, mais jusqu'à un certain point. Car il y a ce qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Expérience troublante, où non seulement nous ne parvenons pas à détourner nos yeux, mais où nous sentons que quelque chose de nous-mêmes est engagé dans cette pente scopique. Défaite intérieure à la volonté, donc, d'autant plus perturbante qu'elle se dénoue dans le microscopique déplacement de notre prunelle vers la gauche ou la droite, en un clin d'œil. Sur Internet, circule ainsi depuis des années l'une de ces images gags, qui tirent leur viralité de présenter sous une forme absurde un petit apologue moral. Intitulée « Jeu de la poule », elle fait suivre ce titre en grosses lettres de l'énoncé d'une règle du jeu « Ne regardez pas cette poule ». Règle surmontant elle-même l'image d'une poule, portant sur son plumage l'inscription « Perdu ». Irrépressiblement, votre œil court du titre à la règle, de la règle à l'image, de l'image à l'échec. Mais si vous souriez à cette bêtise, c'est aussi qu'elle ironise discrètement sur la manière dont le regard peut s'égarer entre l'énoncé d'un impératif et l'irrécusable présence visuelle de ce que cet impératif proscrit. Car comment voulez-vous éviter de fixer ce qu'il y a à voir dès lors qu'on vous adjure de ne pas le regarder ? Cher Patrick, j'avoue avoir songé à cette poule en contemplant dans l'ultime tableau peint par Jacques-Louis David l'entrejambe de Mars. Où, cependant que le dieu est entièrement nu et que la douce main de Vénus prend appui comme par inadvertance sur l'intérieur de sa cuisse droite, une colombe, stratégiquement placée, vient soustraire au regard la probable émotion suscitée par cette paume tiède. Une colombe. Le choix interroge. Je fus tenté d'y voir une allusion évangélique, quelque chose comme « je ne porte pas la paix mais le glaive ». Cher Patrick, la pastorale chrétienne était, paraît-il, traversée par un dilemme. Comment le prêtre pouvait-il entendre en confession les désirs interdits de ses ouailles sans par là même leur donner des idées et susciter chez eux des curiosités qu'ils n'auraient peut-être pas eues sans cela ? Il me semble que le peintre porte ici à l'incandescence une question exactement inverse et qui traverse sans doute la longue histoire des cache-sexes de la peinture occidentale. Comment faire en sorte qu'on ne puisse pas s'empêcher de regarder ce qu'on ne peut pas voir. Cela dit, reconnaissons-le, si comme l'écrivait Nietzsche, les idées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de colombe, celles-ci sont parfois contraintes de marcher sur des œufs.
Une colombe, ou plutôt deux d'ailleurs, qui se bécote François-René Martin, cette question, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qui se dérobe à notre regard alors qu'on voudrait tant pouvoir le guider, c'est cela aussi le trouble qui saisit le regardeur face à ce tableau.
Oui, et il y a plusieurs. On peut entendre le terme de ce qu'on ne peut pas voir sous ou pas voir immédiatement de multiples manières. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce tableau, c'est en réalité le dialogue qui est engagé par David avec lui-même. Évidemment, il y a c'est un tableau qui est autoréférentiel avec évidemment une allusion au Léonidas aux Thermopyles.
C'est-à-dire Mars, hein. Mars, c'est le même, enfin, c'est le personnage qui revient.
Oui, c'est un personnage qui revient, phénomène de retour. On peut trouver ça aussi dans le style tardif des articles, une dimension rétrospective. C'est pas le premier à le faire, et Ingres aussi à sa manière le fera. Et il y a effectivement aussi un dialogue avec Ingres, c'est-à-dire que c'est le propre aussi de grands artistes, de par moments de dialoguer avec leurs contemporains ou leurs successeurs. Il y a un très beau livre d'Yves Alain Boisme que je trouve absolument passionnant, c'est son livre sur Matisse et Picasso avec la métaphore du jeu d'échecs, comme si les deux existences des deux artistes s'étaient entremêlées comme s'ils jouaient dans leur tableau une partie d'échecs l'un avec l'autre. Et j'aime beaucoup cette idée.
Un coup après l'autre, et voilà. Puis même éventuellement en anticipant le coup d'après.
En anticipant le coup d'après. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui peut ressembler à ça, et c'est une des choses qui est frappante dans l'exposition. Le dialogue avec Ingres, il se joue tout d'abord avec les Sabines auxquelles répond Ingres dans Romulus et Acron, et à la fin la réponse de David à Ingres à travers cette notion d'ironie par rapport à l'érotisme et Vénus ici évidemment le dos de Vénus peut faire penser immédiatement au dos de la grande odalisque.
Alors c'est ça qui est évidemment troublant, c'est cette dimension possiblement ironique de provocation, de sarcasme même, par rapport, Sébastien Allard, à sa propre histoire. Parce que effectivement, dans les années 1820, eh bien, prennent, sinon le pouvoir, du moins la visibilité des élèves de la grande école de David. Et David est toujours le maître de l'école française, alors qu'il n'est plus à Paris. Donc c'est depuis son exil de Bruxelles que, d'une certaine manière, il doit brouiller la lignée.
Oui, comme il veut rester le maître, il doit brouiller, il brouille les filiations, puisque la plupart des grands peintres des années 1820, 30 et 40 sont passés par l'un de ses ateliers, Gérard, Giraudet, Gros et évidemment Ingres. Sur la question effectivement de l'érotisme qui va être une des grandes questions ingresses qu'on a ici, la grande odalisque, mais il renvoie aussi à son propre œuvre, puisque la question de la nudité a été posé dès les Sabines en 1799, où il a dû se justifier de la nudité de ses héros et qu'il a dû, en 1808, rajouter un cache-sexe sur Tatus. Et là, en écoutant la petite carte postale que vous avez diffusée, on pourrait voir que la seule arme, si on voulait faire une interprétation psychanalytique du tableau, que la seule arme qui n'est pas retirée à Mars, c'est la lance qui est dressée. Donc, que cachent ces deux colombes ? C'est une question. Et dans le dialogue, effectivement, qui s'instaure avec ses élèves, il y a là une forme de tension, on pourrait dire, en particulier avec Ingres, qui dès 1810, dès 1811, presque involontairement, s'est inscrit contre, finalement, oui, les principes auxquels tenait son maître.
Alors ça, on va en parler tout à l'heure, mais quand même, je voudrais vous écouter aussi sur cette question de la nudité et aussi de la, comment dire, enfin du rapport entre les rôles passifs et les rôles actifs, puisque alors là, Mars, comme son nom l'indique, est totalement désarmé. Enfin, il a pas l'air totalement mécontent de ce qui lui arrive, mais enfin, c'est pas lui qui agit. Et c'est intéressant parce que dans la peinture d'histoire de David, il y a des moments où ce sont, vous en avez parlé, Sébastien Allard, avec l'enlèvement des Sabines, où ce sont les femmes qui agissent, comme c'est le cas ici.
Oui, si on regarde, on a trop souvent décrit l'œuvre de David en disant les hommes agissent parfois un peu trop et les femmes pleurent. Mais on voit bien que si on passe des Horace à Brutus, de Brutus aux Sabines, les femmes ont un rôle qui est toujours plus important, oui, dans ces exemplum virtutis, ces exemples de vertu que sont ces peintures des années 1780-90. Il y a les hommes portent la vertu, si vous voulez, à imiter, et les femmes portent ce que ça représente en termes de sacrifice. Donc elles ont un rôle de plus en plus important, et on voit bien que les Sabines, peint après les années 1793-94, après la chute de Robespierre, cette partie humaine a de plus en plus de place, les femmes sont au centre, et ici, dans ce tableau des années 1824, elle est là en train de déshabiller, de déshéroïser, de démasculiniser, on pourrait dire aussi, le héros.
Les hommes vivent sur Mars, quelle était la vie sur Mars ? David Bowie le chantait en 1971. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, Vous écoutez, allons-y voir et nous regardons le dernier tableau de David. Mars désarmé par Vénus. David qui, dans son exil à Bruxelles, veut toujours rester le maître. Vous l'avez dit, Sébastien Allard, il écrit beaucoup, ce désir et aussi cette amertume d'avoir vu les années de la gloire napoléonienne s'évanouir. Vous avez d'ailleurs écrit un très beau livre, Le suicide de Gros, les peintres de l'Empire et la génération romantique. Le suicide de Gros, c'est 1835, hein, c'est ça, oui. C'est l'année où Ingres devient directeur de l'Académie de France à Rome. Et là, justement, c'est vraiment la fin. C'est la fin de cette peinture de la gloire auquel, oui, David a toujours cru d'une certaine manière, mais qui, dans ce tableau dont on parle, c'est aussi un adieu prématuré à cette gloire, non?
Oui, ce tableau est à la fois un adieu, effectivement, à cet héroïsme cet héroïsme qu'il a peint, qui a été aussi rendu possible par la Révolution, par tout ce qu'il a vécu, et c'est aussi un tableau critique, enfin qui a une dimension critique et ouvrant sur ce qui va advenir, puisque on voit bien que depuis Bruxelles, il harcèle le pauvre Gros qui n'y arrive plus, en lui disant il faut maintenir les bons principes, etc., etc. Mais au fond de lui-même, ce tableau montre qu'il sait très bien que l'avenir est offert par un autre de ses élèves qui est entre autres, qui est Ingres, dont il reconnaît le talent. Il écrit il dit à un de ses élèves bruxellois qui va aller à Paris, vous allez aller à Paris. Vous allez rencontrer Monsieur Ingres, il est séduisant, mais dangereux. On pourrait dire séduisant parce qu'il est dangereux.
Oui, ou dangereux parce qu'il est séduisant. Enfin, en tout cas, ce qui est en jeu, justement, François-René Martin, c'est bien cette partie d'échec dont vous parliez tout à l'heure, entre deux peintres là, qui s'affrontent, qui affrontent leur postérité. Donc, derrière ces figures qui nous paraissent un peu étrangement et ironiquement douceâtres, il y a une partie qui se joue, et avec le corps des femmes comme enjeu.
Oui, il y a une partie qui avait commencé de fait très tôt, dans l'atelier de David. Il y a plein de petites choses qui permettent d'imaginer cette relation. Moi, j'ai en tête quand Ingres, depuis Rome, envoie la baigneuse de Valpinçon c'est une de ses obligations comme pensionnaire à la Comédie de France. David voit le tableau à Paris et fait un petit croquis où il y a une espèce de petite reprise du dos de la baigneuse de Valpinçon dont on peut, sans surinterpréter, y voir quelque chose déjà d'ironique.
Oui.
Le jugement du maître. Bon, il y a évidemment aussi Ingres qui assiste à une séance de pose très compliquée avec Juliette Récamier. Et il peint un morceau du tableau, le porte en sang. Donc, on voit aussi que ce dialogue, effectivement, il se produit à travers le corps des femmes. Déjà, dans ces deux exemples, il est question, d'une manière directe, du corps de femmes, la baigneuse de Valpinçon et Juliette Récamier. Et les choses vont continuer, effectivement, par la suite, et notamment dans ce tableau, Mars désarmé par Vénus.
Écoutez, justement, c'est Éric Vieillard qui lisait sur France Culture en 2007 un texte d'Ingres sur Vénus, sur un tableau représentant Vénus.
Dessin numéro 849. Vénus, avec un geste de pudeur. Collé, coquille. Mine de plomb sur papier végétal, papier blanc pour le coller. Sur papier, 26,7 sur 15,2. Vénus éléphantine, ou ivoirée blanche. Elle est comme honteuse de se voir nue, engendrée de la mer par le ciel. Les jeunes vierges ont les cheveux noués au-dessus de la tête. Zeuxis peignit Hélène nue. Elle composait son tableau. Une écume blanche, sortie du corps immortel, produisit une jeune fille qui, portée d'abord à l'île de Cythère, où aborda cette aimable déesse, portée dans la molle écume de la mer bruyante. Le rivage de Chypre, les heures, la reçoivent. L'éclat de son sein d'albâtre égale la blancheur de la lune. Le bout du sein, vierge, non encore développé. Je chante Vénus à la couronne d'or. Les heures vêtues ou nues, des anneaux éclatants par ses oreilles. La belle comtesse Rompoli, bleu-blanche, l'albâtre, l'éclat de son sein d'albâtre, égale la splendeur argentine de la lune. Vénus, fort belle créature, nageant à la mer la tête toute ornée de roses blanches et incarnate, Zeuxis sacrifiait à la beauté une partie de l'expression. La moindre affection dans la physionomie peut nuire à la beauté pure. Elle est ici comme honteuse de se voir nue. Vénus, nuancée de vert foncé.
France Culture. Allons y voir.
Bonsoir et merci.
Patrick Boucheron.
François René et Martin, vous avez contribué à ce livre dont je parlais, L'art au risque de l'âge. Un des risques de l'âge, c'est effectivement la provocation, le sarcasme, voire aussi les passions graveleuses. Mais là, c'est autre chose aussi chez Ingres qui se joue dans ses derniers tableaux. Vous écrivez ce texte, « Songer à la mort », Jean-Auguste Dominique Ingres, dans ses dernières œuvres. Ce qui se joue là, c'est aussi le spectacle de sa propre mort.
Oui, absolument. C'est une question effectivement qui, déjà d'une manière très très générale, chez David, cette question, elle a quelque chose de très pathétique, avec une double situation. C'est Adorno, il parlait du dernier style des dernières années d'un artiste. Il prenait le cas de Beethoven. Il parlait déjà d'exil. Dans le cas de David, on a une double situation d'exil. Si on reprend cette idée d'Adorno, un exil réel politique à Bruxelles et une sorte d'exil dans les dernières années de la vie. Une sorte de solitude qui serait en quelque sorte quelque chose de fatal chez les grands artistes, d'obligatoire si on suit Adorno.
Mais dans de liberté, paradoxal.
Et aussi. De liberté. Les deux, évidemment, vont ensemble. Ça, c'est une chose qu'avait très bien compris Panofsky dans des cours que Léo Steinberg avait suivis, mais qui n'ont pas été publiés, mais que reprend Léo Steinberg. C'est cette idée que cette espèce d'entrée dans une forme de solitude qui est volontaire pour Panofsky, et Steinberg tient à cette idée, elle est indissociable de la possibilité de faire des écarts. Oui. Énorme. Et des écarts par rapport à l'époque, mais aussi des écarts par rapport à soi, tout en se retrouvant. Il y a quelque chose d'effectivement de très complexe dans les ressacs qui correspondent aux dernières années des artistes. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui est très fort chez Ingres, évidemment.
Ça, Léo Steinberg, c'était sur le dernier Michel-Ange.
Absolument.
Le dernier Michel-Ange, il dure longtemps parce qu'il se croit vieux alors qu'il a encore beaucoup d'années à vivre.
Absolument, oui, là aussi, effectivement, mais ça tient sans doute évidemment à ce qu'est l'espérance de vie à l'époque de Michel-Ange, au XVIe siècle, où à 40 ans, 45 ans, on peut déjà estimer que le terme est échu et qu'on a eu le quantum qu'on pouvait espérer d'années dans son existence. Mais effectivement, Michel-Ange, quand il se voit vieux à 40 ans, il ne sait pas qu'il aura 48 ans encore de création. Effectivement, le dernier Michel-Ange, c'est un Michel-Ange qui rentre dans quelque chose qui passionnait Léo Steinberg, parce qu'il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans son style. Comme s'il y avait une dimension, effectivement, de d'auto-analyse et en même temps d'échappement par rapport à ce que Michel-Ange avait pu faire dans d'autres œuvres, de libération aussi par rapport à ce qu'elle avait fait dans sa période intermédiaire.
Et Ingres, puisque là on rejoint aussi la question du désir et de cette peinture un peu libidineuse quand même, mais aussi mélancolique quant au temps qui fuit. Son dernier tableau, c'est le bain turc, que des femmes nues. Mais que des femmes nues, ça veut dire que nous sommes à l'endroit, puisque nous les voyons, où l'homme qui les voit va mourir. C'est ça, un bain turc, c'est un bain qui est interdit aux hommes. Hein.
Absolument, et effectivement, c'est une chose, m'étant penché sur ce tableau, j'ai essayé de le mettre en relation avec des notes que Ingres a pris dans un de ses cahiers, qui est le cahier le plus important conservé au musée Ingres Bourdel à Montauban, le cahier 9, dans lequel il y a des petites esquisses scénariques. Ingres a recopié deux extraits de ce qui était un best-seller au XVIIIe siècle, mais tout au long du XIXe siècle, ce sont les lettres de Lady Montagu. Et effectivement, quand on lit bien l'extrait, la manière dont Ingres aussi le recompose, parce qu'il recompose l'extrait, en réalité, on voit que ce qui l'intéresse, c'est que cet espace est un espace qui est inaccessible aux hommes.
Oui.
Et donc, à la lettre, c'est un espace mortel. C'est ce que dit Lady Montagu. Elle dit, tout homme qui entre dans cet endroit le fait au risque de sa vie, sous peine de mourir. Voilà. Ce qui montre très bien que pour Ingres, ce lieu, ce dernier lieu qu'il peint à la fin de sa vie, est un lieu en réalité inaccessible et interdit aux hommes.
Bernard Chambaz a écrit un beau livre, Le Dernier Tableau. Il en prend plusieurs. Je songe notamment à celui de Edward Hopper, où ce sont deux comédiens qui, comme des arlequins blancs, font la révérence. Enfin, c'est en 1966, je crois. Évidemment, Sébastien Allard, il y a deux manières. Nous sommes dans cet insolent privilège des historiens qui connaissons la fin de l'histoire, les peintres pas toujours, les artistes pas nécessairement. Certains savent, comme David, qu'ils peignent leur dernier tableau, ils le dessinent même, d'autres non. Mais donc cette notion de dernier tableau, elle est évidemment relative.
Ah oui, elle est tout à fait relative. Le cas de David est particulier parce qu'il le dessine.
Voilà.
Ça sera son dernier tableau. Donc là, on voit qu'il y a cette espèce de volontarisme. C'est aussi, tout à l'heure, François-René Martin, parlait d'Adorno, de Beethoven, etc. Mais ce qu'il y a souvent dans ses dernières œuvres, c'est cette espèce d'énergie vitale. David, de cette génération, comme Beethoven est sourd, et donc je suis sourd, mais je continue à produire quelque chose, et David, ça éclate de couleurs. On sent que cette énergie vitale dans ces dernières périodes où l'artiste d'une certaine manière se réinvente.
Le rapport à l'énergie vitale, au pouvoir, à l'argent, à la sexualité, ça c'est quelque chose que Picasso partageait avec David, il en parlait d'ailleurs, il l'admirait. Écoutez Pierre Dex à propos des dernières œuvres de Picasso dans l'émission Peinture fraîche sur France Culture en 2008.
Tout à la fin de sa vie, il a 90 ans. Bon, il fait les tableaux, vous savez, en vitesse, qui ont fait hurler quand il les a découverts après sa mort et qui sont de très bons tableaux. Mais dans le même moment, il invite Degas à la maison Tellière, c'est-à-dire au bordel. Et vous avez une vingtaine de gravures de Picasso, et des grandes gravures, des plaques de cuivre de cette taille, qu'il fait à 90 ans, où il y a une maestria absolument incroyable du trait, avec toujours quelque part Degas qui regarde les femmes du bordel, etc. Et vous comprenez, c'est ça qui donne toute la distance. C'est-à-dire qu'un homme qui est capable, à 90 ans, de faire ça au Burin, a tous ses moyens, et s'il peint autrement, c'est parce qu'il veut peindre autrement. Et c'est comme ça, il a toujours donné par son activité. Il faisait pas de discours, vous comprenez. C'est par son art qu'il donnait les moyens de comprendre son art. Fallait regarder ce qu'il faisait pour comprendre ce qu'il venait de faire.
Il y a eu à Vienne, assez récemment, j'en ai rendu compte, une grande exposition Picasso sur le Picasso de la fin.
Oui.
Et des gravures de la fin. Et on voit très très bien que tout n'est pas peint. Que la toile, le fond de la toile, le fond est blanc. Mmh. Non peint.
Mmh.
Mais est peint à une très grande vitesse.
Une très grande vitesse. Il y a 90 ans passés. Et il lui reste peu de temps. Il fait jusqu'à deux grandes toiles par jour, trois toiles. Non, là, il est hanté par l'idée de laisser quelque chose à ses cadets avant que la mort ne vienne le prendre. Il a eu la chance de peindre jusqu'à l'automne 72. C'est d'ailleurs l'automne où il allait avoir 91 ans.
Sébastien Allard, cette comparaison avec Picasso, elle n'est pas vaine ?
Non, d'abord, Picasso était un grand admirateur de David, et surtout ce qu'on entend là, c'est, enfin, dans ce que disait Pierre Dec, c'est la liberté. Mmh. C'est la liberté de la liberté, et la liberté, effectivement, on en revient au début de notre conversation, de ne pas finir. D'arriver à quelque chose d'essentiel. Alors David, lui, finit beaucoup, alors qu'il a souvent pas fini, et Picasso fait exactement l'inverse. Et avec des sujets, avec des œuvres, dont, d'ailleurs, si on ne savait pas que c'était Picasso de la fin, on ne saurait pas si c'est l'œuvre d'un artiste débutant ou d'un vieil artiste, quelquefois. Donc, on boucle la boucle, d'une certaine manière.
On boucle la boucle, François-René Martin, par cette expression de liberté, de vitalité, de provocation aussi. Hein. Ça caractérise souvent le style tardif, la provocation.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et on pourrait même ajouter un terme, mais qui ne fait que reprendre ce que nous avons déjà dit dans notre dialogue. C'est encore Adorno, il parle effectivement de Beethoven, mais il parle aussi de Goethe en parlant de... Pour la vieillesse de Goethe et les dernières œuvres, il parle de surabondance de matière. Déliée des conventions. Ce qui rejoint effectivement cette idée de liberté. On peut trouver ça, évidemment, aussi, puisqu'on en a parlé chez Picasso, qui est un autre artiste sur lequel Léo Steinberg s'était penché.
Tenez, je vous en donne une image.
Texte, dans le titre est très drôle aussi, ça s'appelle « Fin de partie ».
Eh oui.
Et où, justement, il revient sur des œuvres tardives de Picasso, d'un Picasso très âgé, où la sexualité est absolument débordante.
Je ne vous l'avais pas dit, mais c'était le titre que je voulais donner à cette émission. Mais pensais plutôt à Samuel Beckett. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Je viens de vous faire passer une peinture de Picasso, ça s'appelle La Pisseuse.
Oui, évidemment. Oui, qui est extrêmement provocante, exubérante de vie, qui est avec évidemment aussi une reprise d'un style, comme si c'était une peinture crétoise, évidemment. C'est effectivement ce Picasso où il y a une espèce d'énergie vitale qui est tout à fait exagérée et volontairement et avec un jeu sur la limite de l'obscénité qui est extraordinaire.
Avec aussi, parce que le temps presse et plus besoin de, pour l'instant justement de lécher, de lisser le tableau. Un fond qui n'est même plus un fond, Sébastien Allard. Ça aussi, c'est propre aux dernières œuvres.
Oui, ça peut, et on voit bien dans La Pisseuse que Picasso ramasse la mise parce que il y a une sorte de raccourci de l'histoire de l'art, de la peinture crétoise à Rembrandt jusqu'à Picasso, et puis lui-même des bouts qui ressembleraient à du cubisme, des choses extrêmement, extrêmement lâchées, qui résument en fait tout son monde et le monde de l'histoire de l'art.
Standing in the hall of the great cathedral, waiting for the transport to come. Starship 2189, a good friend of mine, studies the stars. Venus and Mars are all right tonight. Holiday hardly begun. Run into a good friend of mine, sold me a sign. Reach for the stars, Venus and Mars are all right tonight. Thank you.
Ce n'était pas censé être comme ça. J'étais juste heureux de jouer au tennis et de passer du temps avec mes amis. Et ça s'est terminé ici. C'était une aventure parfaite et je la referai sans hésiter.
On ne part pas avec l'image d'un joueur dépassé. On part avec l'image toujours de cette fulgurance, de cette légèreté. Et tant mieux.
Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, vous avez entendu Venus and Mars de Paul McCartney, The Wings, en 1975, et puis ensuite, vous avez entendu, ben, voilà, une manière de finir en beauté, comment réussir sa sortie, le dernier match de Roger Federer. Qu'est-ce que ça a à voir? Ce que ça a à voir, c'est un très beau livre de Geoff Dyer qui est paru, enfin qui a été traduit en français aux éditions du Sous-Sol en 2024, qui s'appelle Les derniers jours de Roger Federer et autres manières de finir, qui est un livre aussi profond et délicieux qu'il est digressif sur les différentes manières, justement, de comprendre son achèvement et son inachèvement. Il y a des pages sur Dylan, il y a aussi des pages sur Turner. Évidemment, les derniers tableaux de Turner, c'est un problème tout à fait fascinant et très classique de l'histoire de l'art. Et je voulais soumettre à votre sagacité ce que Geoff Dyer dit de, justement, de ces derniers tableaux de Turner. Il prend appui sur un texte de Lawrence qui dit « Si Turner avait pu peindre sa dernière toile, ça aurait été une surface blanche incandescente, la même blancheur à la fin qu'au début, procédant du néon pour rejoindre le néon, en passant par toute la gamme des couleurs. » Et il médite beaucoup sur cette phrase « Si Turner avait pu peindre sa dernière toile. » Évidemment, on finit toujours par peindre sa dernière toile, mais on ne le sait pas toujours, Sébastien Allard. Et c'est aussi une direction de l'histoire de l'art que d'essayer d'imaginer, de poursuivre en pensée ce que, finalement, le peintre pourrait faire en son point suprême d'aboutissement dans son art.
Alors finalement, en histoire de l'art, on essaye d'éviter ça.
Oui.
On essaye d'imaginer ce que ça pourrait. Mais là, on a vu des fins qui étaient, disons, plutôt glorieuses. Mais il y a aussi des artistes qui n'arrivent... des fins très malheureuses. L'élève favori de David, par exemple, Gros, sur lequel j'ai travaillé, n'a jamais fini. Et il a fini par se suicider parce que, justement, il n'arrivait plus à avancer, plus à reculer, plus à finir. Et donc, là, on a vu comment finir, mais peut-être qu'il y a, aussi, pour paraphraser Mauvignier, c'est apprendre à finir.
Oui.
Qui, chez des artistes, il y en a qui ont été conscients, ça a été le cas de David, ça a été le cas de Delacroix, d'une certaine manière, qu'il fallait apprendre, ou qu'on arrivait à la fin de quelque chose. Et certains, d'ailleurs, ont refait leur œuvre. C'est un petit peu le cas, par exemple, de Delacroix, qui reprend des sujets auxquels il ne croit plus, qui sont des sujets de jeunesse, mais qu'il peint parce qu'on sent qu'il est en train de passer du sujet au motif, et peut-être vers quelque chose de l'ordre de l'abstraction, telle qu'elle est évoquée, là, dans le texte de, que vous venez de lire.
Lorenz, oui. Il a réussi sa fin, vous pensez, François-René Martin, David?
Oui, en fait, effectivement, il y a ce tableau très impressionnant et qui est un tableau très, 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 comment dire, qui prend position, qui persiste à maintenir cet idéal de l'héroïsme. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de très impressionnant.
Il persiste, oui, ça c'est quelque chose d'important.
Oui, de très impressionnant. Ouais. Et même les portraits d'exilés, moi, m'ont frappé. Je ne les connaissais pas tous, par une espèce de charge mélancolique extraordinairement forte dans les portraits d'exilés qu'il peint à Bruxelles, avec un jeu entre le regard et aussi les lettres qui sont adressées et qui sont effectivement la marque même de l'exil, le fait qu'on a des nouvelles par les lettres parce qu'on n'est plus en France. Là, il y a quelque chose de très poignant.
Sébastien Allard, il y a effectivement, vous avez disposé devant Mars, désarmé par Vénus, des généraux napoléoniens qui sont portraiturés par David, qui eux n'ont pas désarmé, sont dans leur dans leur uniforme, mais avec une charge mélancolique. En
alors effet. Je dirais pas mélancolique dans ces portraits, dans les portraits généraux, je dirais plutôt nostalgique.
Nostalgique, oui.
Parce que ce dernier tableau montre bien que David n'est pas Léonidas et que David cherche à échapper justement à la mélancolie. Dans son exil n'est pas mélancolique. Il est le grand maître que tout le monde vient visiter. Il vit tout à fait confortablement et il participe encore avec ce tableau et avec d'autres au débat, même si beaucoup de ses idéaux se sont effondrés.
C'est d'ailleurs tout à fait singulier du point de vue historique, parce que il refuse, on l'a dit au début de cette émission, de revenir. Et on pourrait d'ailleurs imaginer que la monarchie, la Restauration accepte son retour. Non, il fait de son exil un reproche vivant, en somme. Mais depuis Bruxelles, d'une certaine manière, il est toujours le maître et même Louis XVIII l'admet finalement.
Oui, puisque le premier musée d'art contemporain créé par Louis XVIII s'ouvre avec des tableaux de David. Donc on est dans une espèce de schizophrénie historique où on a le père de l'école française qui est l'exilé et lui choisit de rester en exil et pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'il a compris que à distance, il devenait la statue du commandeur auquel on vient rendre hommage et qu'il est plus libre d'une part et d'autre part qu'il reste plus le maître que s'il était à Paris.
Donc il a réussi son coup, François-René Martin.
Oui, oui, tout à fait. Mais
vous parliez d'échec.
Oui. Oui, en même temps, effectivement, d'une part le terme est échu, mais son temps aussi est d'une certaine manière passé. Si on regarde effectivement ce que font ces élèves qui se sont effectivement affranchis de son autorité. J'aimerais revenir sur j'aime bien ce motif des derniers jours là de Roger Federer et plus généralement des derniers jours des artistes, indépendamment de leur dernier tableau. C'est un motif qui est une matière mythologique très riche en réalité quand on arrive à le reconstituer. Je pense au récit de la mort d'Ingres qui invite des amis à dîner et qui essaye d'éteindre les braises de la cheminée, qui ouvre la fenêtre et qui va attraper un rhume qui va très vite l'emporter. Et c'est une chose amusante parce que les critiques mettent en relation cette mort d'un coup de froid de la mort supposée, telle qu'elle est racontée par Vasari, de Raphaël, qui aurait pris un coup de froid et en même temps, parce que son corps était faible, parce qu'il avait vécu dans les excès amoureux, aurait été emporté. C'est-à-dire que ce schéma de la mort et des derniers jours, des dernières heures de Raphaël, il est d'une certaine manière aussi projeté sur les derniers instants d'Ingres.
C'était Allons-y voir, merci à vous deux, Sébastien Allard et François-René Martin. Les références de vos livres, de vos parutions, de vos catalogues d'exposition sont à retrouver sur la page de notre émission, une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Grégory Vallon et à la réalisation Sam Basquiat. Merci à vous toutes et tous.